ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Pourquoi mon histoire personnelle fait que je suis opposé à la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté? Je suis Odile Morin, je suis autiste, en fauteuil roulant, dépendante d'auxiliaires de vie pour survivre. Le système d'aide s'effondre, il y a maltraitance institutionnelle et je suis élue municipale, mais sans les compensations nécessaires. Résultat, je suis en burn-out. Et oui, trop souvent depuis plus d'un an, j'ai envie de crever. C'est pour ça que cette loi sur l'euthanasie me terrifie. Parce que dans cette société, quand on vit en tension permanente, sans soutien, ce n'est pas un choix de mourir. C'est une conséquence logique d'un système qui nous broie. Et je ne fais même pas partie des plus fragiles. Alors imaginez les autres. Cette loi, ce n'est pas une avancée. C'est une trappe. Une trappe qu'on ouvre sous les pieds des personnes handicapées et précaires. Et moi, je refuse qu'on ose appeler cela de la dignité. J'ai été manipulé. Ma colère, ma souffrance, on les a instrumentalisés. Mais aujourd'hui, je sais que la vraie dignité, c'est la possibilité de vivre dans des conditions dignes. Et c'est pour ça que je suis contre cette loi. Pour que jamais on ne présente le désespoir comme un droit, ni l'abandon comme une liberté. Tant qu'on ne garantit pas à chacun des conditions de vie décentes, tant qu'on laisse les gens sans soins, sans accompagnement, sans écoute, il n'y a pas de choix libre. J'invite donc tous les parlementaires à la dignité et à voter contre pour protéger nos vies. Je les invite aussi à se former sur le validisme pour que nous puissions enfin travailler ensemble à construire les conditions d'une vie digne pour tous, sans exception.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, une émission qui va parler de validisme, de pouvoir médical, de dignité et d'un débat qui traverse les sociétés en profondeur, l'aide à mourir. Le point de départ, c'est un documentaire britannique, Better of Dead, écrit et présenté par l'actrice et militante Liz Carr. Dans ce film, elle pose une question frontale. Quand la société commence à présenter la mort assistée comme une option rationnelle, qu'est-ce que cela dit de la valeur qu'on accorde aux vies handicapées? Elle interroge la légalisation de l'aide à mourir au Royaume-Uni, elle regarde ce qui se passe au Canada, et elle donne surtout la parole à des personnes handicapées qui racontent combien il est courant d'entendre « à ta place, je préférerais mourir ». Alors, est-ce que l'aide à mourir est un progrès pour les libertés individuelles? Ou est-ce qu'elle devient, dans une société inégalitaire, une réponse à la pauvreté, à l'isolement et au manque de soins? Et est-ce qu'on parle vraiment de choix quand les conditions de vie sont indignes? Pour en discuter, je reçois une militante qui, à Toulouse, porte depuis des années un combat radical pour les droits des personnes handicapées, pour l'accessibilité réelle, pour l'autonomie et contre le validisme institutionnel. Odile Morin, figure du collectif Handisocial et élue municipale d'opposition. Bonjour Odile.
Bonjour Germain.
Bon voilà, même si tout le monde te connaît, tu peux peut-être rapidement te présenter, aussi peut-être présenter Handisocial.
Oui, donc je suis une femme cis de 62 ans. Je suis une personne autiste qui se déplace en fauteuil roulant à cause d'une maladie génétique rare et j'ai besoin d'aides humaines au quotidien. J'ai fondé l'association Handisocial, c'est une association donc en 2001. Pendant des années, j'ai assuré la défense des droits individuels des personnes handicapées en utilisant l'expérience que j'avais acquise avec 10 ans de combat pour obtenir mes droits Cotorep puis MDPH après. J'avais fait condamner l'État, j'avais fait condamner le département et j'étais devenu malgré moi une spécialiste du droit MDPH. Donc pendant 15-20 ans, j'ai accompagné des personnes individuellement dans toute la France pour qu'elles puissent obtenir leurs droits parce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment souvent une lutte. Voilà. Et donc cette association s'est transformée à partir de 2016 en association de lutte contre le validisme parce que j'ai, comme beaucoup de personnes, comme la majorité des personnes handicapées, j'avais intériorisé le validisme. On expliquera après un peu ce
Absolument.
Que c'est.
Hein.
Enfin, c'est un système de, c'est un système d'oppression et de domination qui considère que l'idéal à atteindre, c'est le corps valide et qui, en fait, accorde des privilèges aux personnes valides et qui discrimine les personnes handicapées. Et ça, c'est lié au fait qu'on est dans une société productiviste qui, effectivement, veut des individus rentables à court terme. Handisocial fait partie de plusieurs collectifs. D'abord, historiquement, du CIH 31, qui est le collectif interassociatif Handicap 31, qui fédère à peu près 25 associations du département depuis des années. À ce titre, on est membre de différentes commissions d'accessibilité, mais aussi de la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie, qui permet de prendre les décisions au niveau MDPH. On est aussi membre de la CHA, la Coordination Handicap Autonomie, qui est le représentant pour la vie autonome en France du mouvement international. On est membre du mouvement ENIL, hein, qui est le mouvement européen pour la vie autonome, de l'association et de la galaxie mobilité réduite, qui s'est spécialisée dans les contentieux sur l'accessibilité au niveau national. Et on a créé, on est cofondateur du CUS, le collectif Une seule école, qui défend le droit pour tous les enfants, sans aucune exception, d'être scolarisés en milieu ordinaire, ce qui nécessiterait que l'école soit réellement inclusive, ce qui n'est pas le cas. Et dernièrement, du Front de gauche antivalidiste, qui rassemble, je dirais, l'ensemble des collectifs et des militants antivalidistes. Je dois dire qu'il y a une belle unanimité parmi nous pour combattre cette loi sur le droit à l'aide à mourir. Et donc, Handisocial est passé d'une période de défense des droits individuels à... il y avait aussi des contentieux qui étaient menés, mais on est passé à des actions de plaidoyer, à des actions de désobéissance civile non violente qui nous ont valu un parcours judiciaire particulièrement compliqué parce que le système n'a pas aimé qu'on proteste, mais on l'a fait parce que pendant des années, on a joué le jeu institutionnel, on a joué le jeu de la participation à différentes commissions et on s'est rendu compte qu'on était petit à petit instrumentalisé et utilisé pour servir de caution à quelque chose qui n'était ni démocratique ni respectueux de nos droits. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour parler de la loi sur l'aide à mourir et des soins palliatifs.
Cette loi est éminemment pour nous validiste, au sens où elle est la preuve qu'on renonce à la mise en place d'une vie digne. On propose une mort digne, mais on n'a aucune capacité d'assurer la vie digne aux personnes handicapées, aujourd'hui et maintenant, et aux personnes malades. Et la distinction qui est faite, d'ailleurs, entre malades et handicapés n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que c'est une distinction qui est fantasmée. Parce que, et c'est la preuve qu'on est encore dans une prise en compte du handicap dans un modèle qu'on appelle le modèle médical. Donc le modèle médical, c'est le modèle qui est encore dominant dans la manière de conceptualiser le handicap, qui perçoit le handicap comme un défaut, une maladie à soigner, une expérience individuelle, alors que les antivalidistes ont une approche du handicap, qui est celle d'ailleurs de la loi de 2005, qui est une approche contextuelle. C'est-à-dire qu'on est handicapé lorsqu'on est empêché de vivre une vie citoyenne pleine et entière, dans une société donnée. Je ne sais pas comment vous êtes sans vos lunettes, mais si vous ne pouvez pas conduire ou pas lire sans vos lunettes, dans une société où on ne rembourserait pas les lunettes et où il n'y aurait pas d'opticien, vous seriez très handicapé. Et dans le même état que vous êtes ici et maintenant. Donc c'est éminemment contextuel.
Ce ne sont ni nos incapacités, ni nos déficiences, ni nos différences qui en fait empêchent notre participation à la vie en société. Mais ce sont bien des choix politiques qui sont les entraves. Le choix de ne pas construire tout accessible dès le départ, de ne pas rendre accessible ce qui est existant, le choix d'une organisation de la société qui est construite uniquement par et pour les valides, et non pour l'ensemble de la population, quelles que soient ses différences et quelles que soient les diversités fonctionnelles qu'elle présente.
If you're a visibly disabled person, the chances are that somebody, often a complete stranger, will have come up to you and said something like, gosh, if I was like you, I couldn't go on, I'd rather be dead. You probably think that looking like me, I'd be campaigning for the choice to ask a doctor to put me out of my misery if things ever get that bad. You know, assisted dying. But I prefer to call it what it is, assisted suicide.
Nous avons tous des questions à poser sur la fin de vie. Que nous soyons malades, qu'un proche soit à l'hôpital, que nous nous interrogions sur la mort. Quelle que soit votre question ou votre angoisse, notre service ADMD Écoute sera à votre disposition du lundi au vendredi et répondra à toutes vos questions. Le cas échéant, les membres de notre commission soignants et juridiques pourront être mobilisés pour vous assister. Pour bien préparer sa fin de vie et celle de ses proches, il vaut mieux être bien informé, non ?
Et je pense que la grande escroquerie de la DMD, c'est d'avoir réussi à transmettre l'idée et à naturaliser l'idée qu'en fait, si on mourait mal en France, c'est faute de loi. Or, ce n'est pas le cas. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le problème que l'on a en France aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de loi, c'est l'absence d'application des lois existantes.
Parce qu'une loi existe.
Il existe même plusieurs lois. Il y a eu en 99 la reconnaissance des droits aux soins palliatifs. Il y a eu la loi de 2005, la loi Leonetti de 2005, qui a, je dirais, organisé davantage et donné des obligations à la France en matière de soins palliatifs. Et puis il y a la loi Claeys-Leonetti de 2015, qui a répété et renforcé normalement, reconnu un droit à bénéficier des soins palliatifs, et qui en même temps, et c'était la nouveauté de la loi Claeys-Leonetti qui a maintenant plus de 10 ans, c'était le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc quand on nous dit qu'en France, on meurt faute de loi, on meurt mal, parce que c'est vrai qu'on meurt mal en France, mais c'est pas faute de loi. C'est faute d'application de la loi Claeys-Leonetti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la loi Claeys-Leonetti, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui disait qu'en 2023, 160 000 personnes sont mortes en France sans bénéficier des soins palliatifs et du droit à la sédation. Donc déjà, ne serait-ce qu'accéder à des soins palliatifs, c'est une loterie. Il y a plus de la moitié des départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs. Et au-delà de ça, ce qui est problématique, c'est qu'il ne suffit pas de créer des quelques services de soins palliatifs. Il faut vraiment que la culture palliative devienne quelque chose qui fait partie de la formation et de l'éthique intégrante des médecins et des soignants. Or, aujourd'hui, on hérite de quoi ? On hérite, moi qui ai 62 ans, hein, je fais partie de cette génération qui a connu le sida, qui a connu effectivement des gens qui sont morts dans des conditions horribles, qui ont agonisé. Et en fait, on s'est rendu compte à cette occasion-là que les médecins français n'étaient pas du tout formés à prévenir et à traiter la douleur. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, même si chez les jeunes médecins, ça a progressé parce qu'il y a eu une meilleure formation sur le sujet. Malgré tout, il y a des réticences à utiliser les produits pour soulager la souffrance et une méconnaissance et une non-maîtrise de ces outils qui existent et qui sont disponibles. Donc tant qu'on n'aura pas l'ensemble des médecins traitants, l'ensemble des médecins spécialistes formés et capables effectivement de soulager réellement la douleur, effectivement on continuera à mal mourir en France. Mais on ne meurt pas mal parce qu'il n'y a pas de loi, on meurt mal parce que l'hôpital est attaqué comme jamais depuis des années. Hein. Ça n'est pas Macron a bien aggravé les choses, mais le Parti socialiste a fait le travail de fossoyeur bien avant. Et la droite aussi, donc avec Sarkozy, etc. Donc on est dans une situation où l'accès aux soins est devenu extrêmement compliqué, où on a, par exemple, accédé à une consultation de traitement de la douleur. Ben à Toulouse, moi j'ai un rendez-vous seulement au mois de mai, pris il y a 11 mois. Donc c'est-à-dire qu'il faut attendre presque un an pour pouvoir consulter, y compris quand il y a une urgence, pour avoir éventuellement des solutions pour lutter contre la douleur.
Parce que dans tous les hôpitaux, il n'y a pas de service de soins palliatifs.
La moitié des départements n'en ont toujours pas.
Donc ça a pas, la loi n'a pas enclenché l'ouverture de services et de formation.
On n'a jamais donné ni les moyens budgétaires, ni les moyens en termes de formation. Il devait y avoir une chaire pour former, pour justement construire toute la culture palliative et former les médecins. Cette chaire n'existe toujours pas 10 ans après la loi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une des spécialités françaises, et moi qui connais bien malheureusement le droit français, c'est une des spécificités de la France de produire des textes qui peuvent paraître ambitieux sur le plan du discours, mais qui dans la réalité ne sont pas déclinés et pour lesquels on n'a quasiment aucun levier pour obtenir l'application de ces droits. Donc en fait, c'est pas parce que la loi existe qu'elle est appliquée.
À ce stade du débat, moi je voudrais apporter quelques précisions Évidemment, ce droit opposable, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez déclamatoire qui ne garantit rien. Mais je voudrais préciser que, à l'article 1er, nous avons voté un accès au droit fondamental à la protection de la santé, qui inclut bien évidemment les soins palliatifs. Et nous avons également voté un accès équitable aux soins palliatifs. Donc il y a dans notre texte une forme, si j'ose dire, d'opposabilité.
Et je dois dire que là, donc, ont été votés deux textes hier soir. Il y a eu un texte donc sur le droit à l'aide à mourir, mais il y a aussi eu un texte sur les soins palliatifs. Et ce texte sur les soins palliatifs, la promesse qui était faite initialement, c'était de mettre en place un droit opposable aux soins palliatifs. Alors ça a sauté. Bon, de toute façon, c'était une galéjade, soyons clairs, parce que si on prend le parallèle, le droit opposable au logement, quand on voit le nombre de SDF qu'il y a dans la rue et qui augmente, on se doute bien qu'il ne suffit pas de mettre un droit opposable dans le droit français pour que ça donne des vrais résultats. Voilà. C'est une question de volonté politique, c'est une question de choix politique. Soit on considère que les personnes malades, handicapées, sont une charge et sont un coût pour la société, et à ce moment-là, effectivement, on ne met pas les moyens. Hein, on les met dans la militarisation de ce pays, on les met dans d'autres choses. Mais on ne les met pas. Déjà, on est dans un contexte où la désinformation, elle est de faire croire qu'il n'y a pas de solution. Les soins palliatifs, ça peut être aussi bien une personne qui fait un cancer foudroyant et qui meurt en 15 jours, 3 semaines, comme on a un camarade qu'on a perdu il y a 2 ans. Mais ça peut être aussi des gens qui vont être pendant des années accompagnés par intermittence ou de manière continue pour des soins palliatifs parce qu'ils ont des traitements qui limitent l'évolution de leur maladie. Je pense notamment à un certain nombre de cancers où les gens ont des rémissions pendant des longues années et pour autant ils ont malgré tout besoin d'accompagnement. Et c'est quoi les soins palliatifs? C'est à la fois les soins de traitement de la douleur, mais c'est aussi ce qu'on appelle des soins de confort de manière abusive. Ça peut être des massages, ça peut être plein de choses, des occupations pour essayer d'aider les gens, parce que quand on souffre physiquement, on souffre aussi psychiquement. Enfin, je veux dire, on ne peut pas décorréler le corps et l'esprit. Les deux fonctionnent ensemble. Et donc, la souffrance physique entraîne mécaniquement une souffrance psychique plus ou moins importante. Mais ce qui fait aussi la difficulté, c'est que le contexte dans lequel on évolue fait la différence. C'est-à-dire que si vous êtes accompagné correctement, que vous avez les aides humaines dont vous avez besoin, si vous avez des problématiques de dépendance, si vous êtes soulagé sur le plan de la douleur par des médecins qui maîtrisent bien l'utilisation des psychotropes, l'utilisation de tous les médicaments antidouleurs, ça peut très bien se passer. Et en fait, ce que disent tous les spécialistes de la réanimation et des soins palliatifs, c'est que, effectivement, à l'annonce d'une maladie grave, c'est un peu systématique que les gens veuillent mourir. Mais qu'en fait, une fois passée une première phase, et si on les soulage, si on les accompagne psychiquement, physiquement, ben les personnes, elles ne demandent pas à mourir. Ouais. C'est ce qui manque en France. En France, on abandonne les personnes. On les laisse effectivement mourir dans de très mauvaises conditions. Mais pas par absence de loi, par absence de volonté politique de mettre en œuvre les lois existantes.
Pour être sûr que la prise en charge est la mieux adaptée possible, les professionnels, qu'ils soient psychologues, sophrologues, médecins, se retrouvent chaque jour pour échanger.
Il y a l'assistance quand même de douleur au niveau de la rotation quand on tourne à droite.
Pour eux, même si la loi devait évoluer vers le suicide assisté ou l'euthanasie, leur service doit rester celui de l'accompagnement.
Nous, on est en pleine vie, dans la fin de vie. Et à chaque instant, on savoure ces petits instants qu'on peut offrir aux patients et ces petits moments de plaisir, comme ces petits moments de rigolade, comme ces soins au corps. On n'est pas maître de ce temps qui est leur temps à eux. Nous, on apporte le soulagement.
On est vraiment inquiet pour la société elle-même parce que quand une société accepte de hiérarchiser les vies, les personnes qui sont vulnérables, l'empathie sont premiers, c'est-à-dire que les fragilités, quand elles ne sont pas valorisées, alors on sait que dans nos fragilités se niche toute notre humanité. Quand ces fragilités sont regardées comme des freins et des coups, les personnes vulnérables, si elles n'ont pas suffisamment d'aide, alors que ce soit des personnes porteuses de handicap, ou des personnes âgées, ou des personnes isolées, ou des personnes pauvres, enfin tous ces freins qui ne permettent pas aux gens de vivre convenablement. C'est ces personnes-là qui, en premier, demandent la mort, on le sait. Donc si nous, en face, en tant que société, en tant que collectivité, on ne les regarde pas comme des personnes valables, qui ont de la valeur à nos yeux, et ben on les pousse à choisir l'irréparable. Donc cette loi, nous, on la refuse pour toutes ces raisons-là. Ce qu'on voudrait en soins palliatifs, c'est d'avoir plus de moyens pour que les personnes puissent accéder toutes à la vie plutôt qu'à la mort. Donc on ne veut surtout pas que le droit de recevoir du soin soit remplacé par le pouvoir d'exécuter les gens.
Pour cette projection de Better of Dead que j'ai pu voir, justement, il y avait des témoignages qui parlaient des soins palliatifs et de la non-reconnaissance et prise en charge et culture. Puisque, comme tu le dis, ça peut être aussi une culture médicale qui n'existe pas réellement pour l'instant. Ouais. Quoi. Et aussi de l'idée de tri, parce que puisqu'il y a finalement peu de place, il y a la perception de, comme d'une chance, en fait, alors que ça devrait être accessible.
C'est pour... censé être un droit.
Voilà.
C'est censé être un droit, donc... si ce n'est que, et c'est aussi moi ce qui a participé à ma conscientisation.
Pas de tri, en fait.
C'est-à-dire qu'à l'occasion du Covid, on s'est rendu compte que les personnes âgées et handicapées avaient été triées. Mm-hmm. C'est-à-dire que face à la surcharge des services de réanimation, ont été mises en œuvre des protocoles qui existaient déjà, mais dont on n'entendait quasiment jamais parler et qui se faisaient à bas bruit. C'est-à-dire de considérer tout d'abord qu'une personne âgée ne pouvait pas tirer bénéfice de la réanimation. Or, les études médicales montrent que les choses ne sont pas aussi simples et que même statistiquement, ce n'est pas aussi vrai que ce que s'imaginent beaucoup de médecins. Mais surtout, c'est une journaliste du Monde qui l'a documenté, hein, Florence Aubenas, une personne, un établissement spécialisé personnes âgées ou des particuliers qui appelaient l'hôpital, s'ils donnaient l'âge de la personne, enfin, de toute façon, on leur demandait, on leur disait, ben, vous le gardez chez vous. Vous le gardez chez vous, c'est-à-dire qu'il n'était même pas transféré à l'hôpital. Et on s'est rendu compte aussi qu'un des autres critères qui était utilisé, c'est celui du niveau de dépendance. C'est-à-dire qu'on considérait, et on considère toujours, qu'une personne qui ne peut pas se servir de ses bras, de ses jambes, qui a besoin d'une tierce personne, que cette personne ne serait pas réanimable. Et surtout, plus grave encore, on considère que ce ne serait pas bon pour elle et que rien ne sert de prolonger des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Et ça, c'est une des grandes difficultés à laquelle on se heurte, c'est-à-dire qu'on a construit dans l'idée du public que les vies des personnes handicapées étaient forcément des vies misérables, des vies tristes, des vies malheureuses, et que finalement, bah, c'était peut-être leur rendre service que de les soulager en les faisant mourir en douceur. Sauf que ben, la réalité, c'est pas ça. Et c'est pas la volonté, en tout cas, des personnes concernées. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une société validiste où tout est fait pour les valides, ce n'est pas simple. Mais ce qui, encore une fois, empêche, rend notre vie difficile, ce ne sont pas nos maladies, nos douleurs, notre fatigue, les déformations de notre corps. C'est avant tout les conditions dans lesquelles on nous permet ou pas de vivre en France. Et c'est ça le fond du problème. Et c'est ça dont on n'a pas parlé.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard, nous vivons sans gîte, goulûment et vite comme le moineau. Haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino, la vie est diverse. Nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables. Nous sommes des diables, nous sommes des dieux.